Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec la technologie, certaines anciennes technologies commencent à disparaître pour ne pas être remplacées. Mais vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein, avec les cassettes 8 pistes, par exemple, dans les années 70-80, on a vu apparaître cette technologie-là pour ne pas être remplacée. En fait, c'est pas nécessairement un bon exemple parce que il y avait de la musique avant, il y en a eu après. C'est simplement une évolution, il y a eu comme un transfert. Moi, ce que je vous parle, c'est des choses qui existaient, par exemple, depuis très longtemps, qui faisaient partie du quotidien, qui faisaient partie du monde qu'on connaît depuis des fois une centaine d'années et plus, puis qui disparaissent tout simplement. J'ai déjà mentionné ici à l'émission la disparition il y a quelques années du télégramme. On avait envoyé le dernier télégramme autour, je crois, de 2006 ou 2007. Ce qui est un peu triste quand même, le télégramme, parce que il y avait un côté officiel à recevoir un télégramme. On envoyait un télégramme pour envoyer un message qui était vraiment très, très officiel, contrairement à un courriel. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le courriel qui a remplacé tout ça, sans nécessairement cet aspect-là plus officieux, authentique. J'ai lu aussi dernièrement que la dernière usine qui fabriquait des machines à écrire mécaniques est disparue. Mais en fait, il y avait eu un reportage là-dessus, un article de journal qui disait que la dernière usine de machines à écrire a fermé, il n'y a plus de compagnie qui en fabrique. En fait, c'est les machines à écrire mécaniques. C'est une compagnie en Inde qui en fabriquait encore. Ils en ont encore en stock. Ils les écoulent peu à peu parce qu'il n'y a pas nécessairement de futur, d'avenir pour ce type de technologie-là. Cependant, il y a une compagnie américaine qui a dit qu'ils, eux, fabriquaient encore des machines à écrire électriques et ils sont pas prêts de fermer leurs portes parce que ils ont une très, très grande clientèle au niveau des prisons américaines où est-ce que, ils permettent pas l'ordinateur. Il y a plein de choses qui permettent pas. Puis donc, les détenus écrivent avec des machines à écrire. Puis aussi, ils font un modèle justement fait sur mesure, moins de pièces, transparent pour pas qu'on cache de la drogue ou des armes ou toutes sortes de choses là-dedans. Ça me fait aussi réfléchir tout ça à l'accélération du monde, l'accélération des technologies. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec le monde du iPad, du iPhone, le monde des applications? Parce que ça va pousser un peu l'obsolescence des technologies en général, ce monde-là, parce qu'évidemment, il y a des nouveaux modèles qui sortent beaucoup plus puissants, beaucoup plus rapides, et le monde des applications, ça sort un peu du monde traditionnel du web, ça sort un peu justement du monde traditionnel des documents qu'on avait sur nos appareils, des fichiers qu'on pouvait identifier, alors que là, ces fichiers-là, sont pas identifiables, ils appartiennent à une application, ils sont résidents à l'intérieur d'une application. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand cette application-là deviendra obsolète, quand l'application ne sera pas supportée, si on n'a pas de fonction d'exportation. Oui, si c'est une application visuelle, on peut prendre des captures d'écran. Mais si on n'a pas de fonction d'exportation pour avoir un format qui soit compatible, je me demande qu'est-ce qui va arriver. Donc, dans un sens, oui, la technologie a rendu obsolète des anciennes technologies, mais la nouvelle technologie rend aussi les nouvelles technologies obsolètes. Et il faut se poser surtout la question, pourquoi on passe autant de temps sur des plateformes qui mèneront à la perte de notre contenu? Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous écoutez le 66e Québec en balado-diffusion.
Les yeux collés comme du crazy glue, il reste plus grand couleur sur mes joues. La tête ailleurs depuis je sais plus quand tu comptes plus les jours quand t'es rendu. J'pédale pas, c'est que j'pédale trop dans le vide. la garantie, puis c'est brisé. Je vais se retrouver avec rien dans les poches, sauf du duvet lourd comme des roches. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide.
Oh yeah! Je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est tout nouveau, c'est du Lisa Leblanc. C'est une jeune artiste qui vient du Nouveau-Brunswick, d'un petit village d'environ 40 habitants. Puis elle dit elle-même qu'elle fait du folk trash. Elle a lancé son album cette semaine. En fait, je voulais aller faire un tour, mais quand j'ai vu aux nouvelles qu'elle avait refusé comme 200-300 personnes à la porte, parce que c'est vraiment un phénomène, cette fille-là. Il y a eu son vidéo qui a sorti sur YouTube et ça s'est relié de façon assez frénétique, presque complètement virale. C'était vraiment sympa. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai une de mes étudiantes qui est bien amie avec. Mettez ça dans vos oreilles, du Lisa Leblanc. C'est vraiment cool avec son accent acadien. J'adore. Il y en a un, oui. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'est-ce que c'est? Tout de suite après l'intro, c'est toujours la même chose. Ça vient dans une belle, belle, belle bouteille brune. Je voulais vous dire que, par rapport au carburant de la semaine, oui, j'habite près de Chambly, puis évidemment, il y a une Hibrou qui est juste de l'autre côté. En fait, moi, j'habite à Richelieu, puis l'autre côté de la rivière, il y a Chambly. Et une Hibrou est vraiment juste l'autre côté de la rivière. Là, c'est à peu près un kilomètre et demi de la maison. Puis, même si c'est le hometown de Unibrou, même si c'est la fête de la bière, c'est drôle, mais à Chambly, c'est pas un endroit où est-ce qu'on trouve beaucoup de bières, une grande variété, et on trouve vraiment peu de bières de microbrasserie québécoise, aussi surprenant que ça puisse paraître. En fait, on a un très bon brewpub, un très très bon brewpub qui s'appelle Bedonden et Bedonron, qui font des bonnes bières, puis ils font aussi des bières qui laissent vieillir avant de nous servir, puis c'est toujours un plaisir. Je vais malheureusement pas assez souvent. Sinon, on en trouve un peu dans le frigo de l'épicerie Métro. Ils les mettent pas sur les tablettes, ils les mettent pas très à la vue, probablement parce que ces gens-là paient pas pour de l'espace tablette. Mais si on va dans le frigo, ben on trouve quelques petites choses. Les bières des Trois Mousquetaires, on trouve différentes choses. Je pense Dieu du ciel aussi a des bières là. Bref, et sinon, mais il y en a un peu à l'épicerie IGA près de l'autoroute 10. Ils ont plus de variétés, je pense, chez IGA. Mais sinon, c'est très, très, très tranquille. On ne peut pas aller dans un dépanneur puis penser acheter autre chose que de la bière de Nibrou ou de la bière des grandes brasseries ou leur bière, disons, internationale que les grandes brasseries distribuent. Sinon, c'est tout. Je vous l'ai déjà dit, où est-ce que je vais chercher mes bières québécoises, mes bières de microbrasserie. Je vais souvent, quand je vais à Montréal, je vais au dépanneur Peluso, au 2500 rue Rachel Est. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont réagrandi quand même avant Noël, quelque chose comme ça. C'est immense, c'est incroyable. Là. La superficie de l'espace bière est comme 2-3 fois supérieure à la superficie de l'espace dépanneur. c'est vraiment grand. Et ils rentrent de plus en plus de produits, donc ça, c'est vraiment un plaisir d'aller là. Sinon, je vais à un dépanneur qui s'appelle Le Vent du Nord à Sherbrooke. Ça a l'air d'un dépanneur normal. On rentre là, c'est pas immense, mais il y a une bonne diversité. Ils ont pas tout, évidemment. Une bonne diversité et ils ont surtout de la qualité. Donc, c'est là que je suis arrêté en passant, en revenant d'enseigner plutôt. J'ai arrêté et j'ai pris cette bière-là qui vient de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. J'ai lu sur Internet, c'est un barley wine. En tout cas, eux écrivent que c'est une bière extra forte. C'est une bière qui était en développement, en démo. Ils font ça des fois. Ils font une bière en démonstration comme ça. Ils mettent une étiquette qui est écrite à la main, quelle sorte de bière qu'il y a dedans. Je ne l'avais pas goûté à ce moment-là, sauf que ça a gagné l'or au Canadian Brewing Awards de 2011. Donc, c'était vraiment le grand gagnant de sa catégorie. Tout ça pour dire qu'ils font des bières avec des noms assez savoureux. Une qui s'appelle Bout de Feu, l'autre s'appelle Vire Capot, l'autre s'appelle Belgique et Gros Mollet. Et celle-là est tellement récente, tellement nouvelle et bonne qu'elle n'est pas encore affichée sur le site web. Et je me demande d'ailleurs s'ils vont l'afficher. Le graphisme des bouteilles est assez intéressant, les étiquettes. C'est des illustrations, c'est assez sympathique, un style vraiment très, très particulier. Et la bière en question s'appelle Frappe à bord. Donc oui, Frappe à bord, probablement c'est des noms de personnages sur les étiquettes. Il y a des personnages, donc c'est probablement des personnages du lac Saint-Jean ou tout simplement un truc inventé. Mais c'est vraiment sympathique. Pour nous, des frappes à bord, parce que moi, je viens pas du lac Saint-Jean, je viens de l'autre côté du fleuve, je viens du Bas-Saint-Laurent, mais on connaît ça aussi des frappes à bord, parce que on a beaucoup d'expressions communes, des ancêtres communs. Il faut dire qu'avant d'aller peupler le lac Saint-Jean, souvent les immigrants français arrivaient à l'époque par bateau, arrêtaient à Kamouraska, traversait le fleuve, remontait le Saguenay pour aller s'établir. Donc, on a souvent des ancêtres communs et aussi beaucoup des expressions communes. Donc, frappe à bord, c'est quoi à l'origine? Nous, on dit ça, des frappes à bord, pour des mouches très virulentes qui piquent très fort. On appelle ça aussi des thons dans le bas du fleuve. Les Montréalais ou ceux qui n'ont jamais vu de chevreuil appellent ça des mouches à chevreuil. C'est à moitié une blague parce que les seules personnes que j'ai entendu dire ça, mouche à chevreuil, c'est souvent des gens de Montréal ou des gens qui sont jamais allés dans le bois. Parce que en fait, on appelle ça couramment des thons ou des frappes à bord. Donc, assez déblatéré. Je vais vous lire c'est quoi cette bière-là. Ça nous dit « Frappe à bord, frappez fort. En son honneur, voici un barley wine redoutable, attaque puissante, amertume mordante et une finale de sirop d'érable et de sucre d'orge. Vous serez au plancher. » Faut dire que c'est pas gratuit. Hein. C'est une bière qui est dans une bouteille de 500 ml. Ça fait 11% d'alcool, c'est aussi fort qu'un vin. Et ça se vend presque 11$, autour de 10$. Donc, je vais la déboucher. Voilà. Et je vais en verser un peu. Déjà, juste à déboucher, l'odeur me vient au nez, c'est incroyable. Oh, que ça fait une belle mousse, ça! Oui, c'est un peu roux caramel, roux brun. C'est quand même assez opaque, il y a de la matière là-dedans, c'est pas transparent. Et la mousse est vraiment beige, un peu beige érable caramel. Oh, c'est très, très houblonneux. Oui, ça sent vraiment le houblon frais, là, c'est incroyable. Mais je vais y goûter devant vos oreilles. Oh! C'est le fun, ça goûte certains barley wine, justement, quand on va dans un brew pub. Et c'est ça le problème, quand on va dans un brew pub, on boit des barley wine, puis c'est rare que ceux qui sont conditionnés en bouteille ont le même goût, puis ça se rapproche quand même pas mal. Il y a des houblons très puissants, très amers, qui ont un côté un peu résineux, je dirais. Sinon, la bière... Oui... La bière, le sucre goûte un peu le bonbon. Je sens pas tant que ça l'érable parce que le houblon est tellement présent. Mais ceci dit, c'est vraiment très, très bon. Je vous le conseille. Je vais essayer de pas trop en boire pendant que je fais l'émission parce que je vais finir puis je vais complètement déparler. Mais voilà, c'était pour la bière, la frappe à bord. Oui, j'ai fait quelques conférences récemment. Je pense que je vous en avais parlé. J'étais allé à Québec. C'était assez sympathique. J'en ai fait une autre. C'était une conférence formation sur la production vidéo, mais un peu la production, mais surtout les stratégies, la mise en ligne, les outils les plus performants, etc. Et c'était aussi beaucoup axé sur la production de vidéos sur ordinateur Mac. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. Donc, c'était assez sympathique. Une petite formation qui était à taille plus réduite. Quoi, il y avait peut-être une vingtaine de personnes, une quinzaine de personnes. Donc, c'était assez sympathique. Un contact plus direct avec les gens. C'était aussi dans une petite salle. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. Des gens qui sont moins actifs sur tous les réseaux sociaux ou ils ont tout simplement mis leurs outils de côté pendant qu'ils m'écoutaient. Donc, il y a eu un bon échange. Ça, c'est toujours plaisant parce que celle que j'avais fait à Québec, c'était des gens qui étaient assez actifs sur les réseaux sociaux. Et étant donné que ça faisait partie d'une formation, ils ne payaient pas nécessairement un prix d'entrée. C'était inclus à l'intérieur du coût de leur formation. Donc, dans ce temps-là, quand les gens ne payent pas nécessairement, ils ne sont pas nécessairement toujours à l'écoute. Donc, c'est plus difficile de capter leur attention à ce moment-là. Ceci dit, j'en ai une autre qui s'en vient. C'est une conférence pour l'Association des cadres en enseignement du Québec. Et ça a lieu au Château Frontenac, donc ça va être la première fois que je fais un événement au Château Frontenac. Je suis déjà allé au château, évidemment, mais j'ai bien hâte, c'est au mois de mai, et j'ai plusieurs idées à partager avec les gens en enseignement, étant donné que, oui, je suis dans ce domaine-là, j'enseigne aussi, mais bon, c'est pas l'usage à l'intérieur de la classe, c'est vraiment pour les cadres, comment ils peuvent l'intégrer à leur routine de travail, comment ils peuvent bénéficier de tout ça. Je vais leur parler de différents outils, différents réseaux, différents principes, mais c'est sûr que la problématique dans ces choses-là, c'est toujours que on ne peut pas faire les choses à la place des gens. T'sais. On ne peut pas implanter des systèmes à la place des gens. Et c'est là que le bas blesse, comme on dit. C'est parce que les gens sont, même si on leur parle, ils voient l'avantage, ils ne sont pas toujours prêts à prendre le temps de mettre ça en place ou ils ne s'y connaissent pas nécessairement. Et ils ne le font tout simplement pas. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer puis j'ai hâte de voir le feedback de ça. Peut-être que je vous en reparlerai. J'ai aussi quelques idées pour Podcasters Across Borders en juin, mais je ne suis pas sûr que je vais le faire parce que vous avez sûrement entendu parler, si vous habitez au Québec, qu'il y a une grève étudiante contre la hausse gouvernementale des frais de scolarité. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec, il faut savoir que à l'université, les frais sont très bas au Québec quand même. On parle d'environ 2 000 $ par année pour étudier à l'université pour les frais de scolarité. Si vous habitez aux États-Unis, vous devez trouver ça absolument microscopique. À l'échelle canadienne, on n'est pas les moins chers, mais on est parmi les moins chers. Sinon, dans d'autres pays en Europe, il y a certains pays scandinaves, la France, c'est souvent complètement gratuit. C'est sûr que c'est un coût social, mais c'est très avantageux aussi de faire ça, de donner une accessibilité au savoir. Donc oui, je suis de tout cœur avec mes étudiants, évidemment. Je suis prêt à assumer ce coût social-là. Déjà que moi, personnellement, mes études m'ont coûté très cher. Ça a été très difficile pour moi financièrement de pouvoir repayer tout ça après. Et justement, j'ai fait mes études, pas nécessairement mon passage au niveau collégial. Devait durer 3 ans. Le programme, c'est un programme de 3 ans. Il a duré 4 ans. À l'université, ça a été la même chose. Donc, j'ai fait 8 ans au lieu de 6 ans d'études postsecondaires. Pourquoi? C'est justement, c'est à cause que ça avait un coût. Et ensuite de ça, c'est que au niveau de l'aide financière, ben j'avais pas nécessairement d'aide financière gouvernementale, j'avais un prêt. Donc, si on contracte un prêt à chaque année, on accumule beaucoup de sous. L'autre chose, c'est que j'étais obligé de travailler beaucoup, travailler très fort. Je travaillais en moyenne 20, 25, 30 heures par semaine. À l'université, les deux dernières années, je travaillais à temps plein pour réussir à payer mes études et pas nécessairement à des salaires très faramineux. C'est pour ça que j'ai fini en 4 ans. C'est pour ça aussi, j'ai fini en chaque niveau en 4 ans, donc en 8 ans. Ça m'a pris 2 années supplémentaires. Donc, 2 années supplémentaires que moi, j'ai emprunté plus d'argent au gouvernement, donc plus à remettre. Et ça a coûté de l'argent au gouvernement. Si on pense qu'à l'université en ce moment, ce que ça coûte socialement par étudiant, c'est une moyenne de 28 600 $. C'est beaucoup. Au cégep, je ne sais pas c'est quoi la moyenne, mais moi, je peux vous dire, au cégep où j'enseigne, c'est grosso modo autour de 15 000 $ par étudiant. Et on est parmi les cégeps, les collèges d'enseignement les mieux gérés au Québec, à ce que je sais. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, d'avoir dû prolonger mes études, ça a coûté socialement probablement au-delà de 40 000 $. Et en plus, ben moi, de devoir remettre plein d'argent de pré-étudiants à chaque mois. Donc, c'est une problématique. Je crois que plus on va rendre ça accessible, moins les étudiants vont devoir travailler pendant leur étude. Ils vont finir plus rapidement. Je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça coûte beaucoup moins cher rendre ça accessible, autant socialement que pour les gens individuellement parlant. Oui, je vais vous parler d'un nouveau podcast qui m'a été envoyé récemment, cette semaine. C'est fait par Geoffroy Leroux de Montréal. Il produit une émission hebdomadaire appelée tout simplement L'Historien. Ça se trouve à quelle adresse? Ça me surprenait que c'était disponible. C'est à historien.ca. historien.ca. Je vous lis la description qu'il m'a envoyée. Ça dit « Notre émission est un rendez-vous d'une heure où nous parlons d'histoire avec un ton novateur et accompagné de musique électronique indépendante. Le résultat est surprenant. Nous serions ravis de rejoindre les rangs de Québec en balado-diffusion. » Ben, vous y êtes! Vous êtes là! Vous êtes parmi nous. Je vais mettre un lien dans les notes de l'émission. Et puis, j'espère que vous allez tous aller donner une oreille à L'Historien. Je vous fais jouer une chanson et je vous parle tout de suite après.
À soi, messieurs, mesdames, on va briser des cœurs. Voici le cardiogramme de Roger Gontager. J'ai un dilemme sérieux, je vous le soumets sans détour. Qu'est-ce que ça donne d'être heureux si t'es pas en amour? L'argent, le job, le sport, puis toutes ces belles affaires sont dans la valise du char. Le char est à fourrière. Y'en a même un jour, dis-toi qu'est-ce que tu veux. De l'amour, de l'amour, de l'amour, et tous avec des œufs. La femme cherche partout, police court après la bouche, pas inquiète, vont bien un jour finir par se marier. T'es bien content pour eux, le souhait des bons amants, ils vécurent peureux, eurent de nombreux paiements. La haute fidélité, c'est pour les systèmes de son, pour les clients de la baie, cocu dans le salon. Pipi, pi, pi, pis si mouille, mouillera, pis si neige, on pelletera, hola pour la vida. Qu'est-ce que t'as bien volé? Je la avec la blonde et non baissé dans pas de ma peau. Ça, c'est le bonheur. C'est l'orage gigantateur. Moi, j'ai un idéal, c'est de rater ma vie. Je sais pas si c'est normal, j'ai pas encore réussi. Un problème de poisson, une petite nouvelle pour vous. D'avoir ou en prison, j'en ai trouvé partout. Tout le long de ma route, j'ai fait des erreurs. C'était plus fort que tout, je les ai appris par cœur. Ça donne de l'émotion, fort que je n'ai jamais assez. Moi, où ce que le vent m'emporte, je t'apprendrai à laisser. Les jaloux qui me font chier me le pardonnent tout de suite. Pour pas les oublier, j'ai toute la liste ici. Dans mon coffre à ticket, ce pinot et P4, tout bien classé par dette. Mal et m'acheter une cravate. J'arrive à la banque, bonjour, je viens vous vendre mes dettes. Je reviens heureux comme tout, comme petit cochon dans la boîte. Pipi, pipi, si mouille mouillera, pici les gens pèlera, holla pour la vida. Qu'est-ce que vient voler? Ça l'a défoncé avec la blonde, et non, pis c'est dans pas de ma faute. Ça, c'est le bonheur, selon Roger Gunpowder. Moi, je me mêle pas de politique, les vers de terre shiny. Pour ma santé publique, je m'en tape un par année. Juste pour les funérailles, les bagnoles flambant de voir un ministre qui broille. C'est sûr que ça pète le papa. Parlant de religion, la mec et puis l'islam. Nous autres dans notre région, c'est la mort qui pille la slam. Comme dit dans sa caverne, le gourou consacré, c'est l'idée d'où l'éden. Fuck him all but six. Qu'est-ce qu'il disait pour ça? Le pire, c'est quand que le pire se met à revirer, il y a des choses bien pires qui sont jamais arrivées. À trop penser à l'avenir, on en oublie le présent, ça fait que à l'avenir, pensez-y plus souvent. Là, je m'en vais chez Denis, son beau futon en fond, comme on dit dans le showbiz, le gars show must go home. Pi, 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 si mouillé mouillera, pi, si les gens pèlteront, holla pour la vida. Qu'est-ce que tu voler? Ça la défonce avec la blonde, et non, c'est donc pas de ma faute, ça c'est le bonheur, c'est l'orage gigantateur.
Oh oui, ça s'appelait Roger Guntaker et c'est chanté par notre ami Richard Desjardins de son album L'Existoire. Il a lancé ça, je pense, l'automne passé ou quelque chose comme ça. Et je trouvais ça très bon et j'ai eu envie plusieurs fois de vous le mettre à l'émission. Mais comme j'ai pas fait beaucoup d'émissions, ben, je ne vous l'ai pas mis avant. Puis je cherchais d'autres choses aussi pour mélanger avec, parce que bon, ça ne se mélange pas avec n'importe quoi. Puis je trouvais, bon, en mettant du folk, ça fitait bien. Je trouve les paroles absolument déjantées dans cette chanson-là. Puis c'est drôle, j'ai juste acheté cette piste-là de cet album-là. Je ne sais pas, les autres, je n'ai pas accroché. Peut-être que ça viendra, mais sinon, je vous le conseille, puis la réécouter, en tout cas, c'est un bon verre d'oreille, je trouve, elle reste dans la tête aussi. Donc, je vais vous parler un peu de l'Apple TV, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça a été annoncé en même temps que le iPad numéro 3, qui n'a plus besoin de présentation. C'est pas que je voulais tout prix m'acheter un Apple TV. En fait, je voulais reporter l'achat un peu, peut-être à l'automne prochain, quelque chose comme ça. Sauf que je montais un meuble télé dans lequel on cache absolument tous les fils. Et là, ben, c'était le moment vraiment parfait pour l'acheter parce que si on cache les fils, j'aurais été obligé de réouvrir tout le système de panneaux puis pour repasser les fils. Donc, et c'était un peu complexe, je dois dire, la façon que mes trucs sont installés. Donc, je me suis dit, c'était le moment ou jamais. Donc, je l'ai acheté, puis c'est pas parce que c'est cher. Écoutez, là, c'est 109$ plus taxes. Donc voilà, j'ai reçu un chèque d'un de mes contrats et voilà, boum, je l'ai acheté. Je suis assez content. J'aurais pas acheté les modèles précédents parce qu'entre autres, bon, ça faisait du 720p et là, c'est du 1080. La qualité est quand même assez impressionnante. L'interface est simplifiée. Moi, je connais des gens qui avaient, bon, les premiers Apple TV, là, dans lesquels il y avait un disque dur et tout ça. L'interface était un petit peu plus compliquée. Donc, ça aide. C'est assez simplifié. Si on regarde la vidéo, par exemple, sur Netflix, c'est vraiment, vraiment wow. Je suis impressionné. C'est sûr qu'il y a quand même un peu de compression, mais c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve, en général, c'est mieux que ce que nous fournit Vidéodrome. En général, la compression est moins apparente, en tout cas est mieux gérée, tout ça. Et aussi Netflix, par exemple, et d'autres, d'autres applications dans lesquelles il y a de la vidéo, comme Tout.tv, ça semble skipper un peu à partir de l'iPad quand on relie l'iPad à la télé avec un câble HDMI, puis quand on regarde Netflix directement sur la Apple TV, ben c'est très très fluide, là. C'est magnifique. On n'a pas l'impression de regarder quelque chose de compressé, là. On peut le mettre en mode mirroring, le iPad, si on veut l'écouter directement sur son Apple TV. Donc, il va nous montrer sur l'écran exactement ce qu'on voit sur le iPad. Ou sinon, généralement pour les applications qui fournissent la vidéo, c'est un peu comme se mettre en écran secondaire. Donc, on a les boutons sur l'iPad et la vidéo sur notre télé. C'est un petit peu plus limité pour l'iPhone parce que l'iPhone, il n'y a pas vraiment de fonction de mirroring de l'écran. En fait, ça sert plutôt à regarder de la vidéo qu'on a sur certaines applications et ça fonctionne quand même aussi assez bien. Ce qui est surtout le fun aussi, c'est la possibilité d'envoyer sa musique sur le système de son. Parce que moi, j'ai un système surround à la maison. Donc, j'ai relié mon Apple TV au système de son. Qui lui-même est relié à la télé. Donc, ça, c'est vraiment sympathique parce que peu importe ce qu'il y a sur la Apple TV, quand on fait jouer de la musique puis on se connecte à partir d'un autre appareil à l'Apple TV, ça arrête tout ce qu'il était en train de faire et ça commence à faire jouer ce qui est sur notre appareil sur la Apple TV. Donc, c'est assez intéressant. Il y a aussi différentes fonctions qu'il y avait déjà avant, mais qu'on a ailleurs, comme par exemple des flux de radio. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est pas juste un flux de radio que tu as sur un appareil portable ou sur un ordinateur. Là, on le met directement sur le système de son. Puis là, c'est vraiment. J'en profite beaucoup plus. Avant, j'écoutais pas de radio en streaming. Là, quand je travaille à la maison, je me mets souvent de la radio. J'ai découvert certaines radios. J'ai pas passé à travers tout parce qu'il y en a tellement. Mais j'aime bien écouter Monocle, qui est la radio de cette revue pour hommes qui est produite à Londres. Donc, j'aime assez ça. La musique est bonne. Les propos sont le fun aussi, avec un petit accent, évidemment, très, très british. Mais c'est vraiment bon. Aussi, avec le flux de photos, donc, si on a pris des photos avec notre iPhone, si on a pris des photos avec notre iPad, où on a transféré des photos de notre caméra numérique vers iPhoto sur notre ordinateur, les dernières s'affichent sur le Apple TV. Donc, ça se connecte de façon transparente et ça se relie par le cloud. C'est sûr qu'il faut activer ces fonctions-là, le sharing via iCloud. Il faut l'activer sur chacun de nos appareils. Mais pour moi, c'est génial. Pas nécessairement pour le regarder sur l'Apple TV, mais depuis la nouvelle version du système et que j'ai activé tout ça, moi, ça m'est vraiment beaucoup utile. Je prenais des photos et des captures d'écran à partir du iPad, à partir du iPhone pour faire des démonstrations à des clients, pour faire des conférences, tout ça. Puis là, c'était un processus assez fastidieux, disons. Comme par exemple, cette semaine, j'avais une présentation d'un projet à faire. J'ai pris des captures d'écran et du iPhone et du iPad de certains sites pour montrer ce qui marche, ce qui ne marche pas, les fonctionnalités, tout ça. C'était très facile parce que quand j'ai ouvert iPhoto sur mon ordinateur, les photos étaient toutes là et j'ai pu les intégrer. Donc, c'est pas une fonctionnalité de Apple TV, mais juste pour vous dire que quand on le fait, on l'active, ils sont disponibles aussi sur le Apple TV. Ça, c'est le fun. Et je redécouvre mes images parce que ma télé, j'ai une bonne télé Sony, qui est assez grande aussi, mais en ayant transféré par exemple des photos de mon voyage en France l'année passée, je fais « wow, il y a du détail, il y a du contraste aussi sur une télé Sony, beaucoup de contraste et je trouve en général la télé interprète bien tous les détails, c'est vraiment très 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 beau ». Pour le MacBook, par exemple, si on veut le brancher à l'Apple TV, ça fonctionne avec iTunes. Donc, c'est la musique, les films, les émissions de télé, etc., etc., tout ce qu'on transfère finalement sur iTunes. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas montrer tout le reste. On ne peut pas voir ce qu'il y a sur notre écran d'ordinateur tel quel, par exemple. Ça ne permet pas de faire ça, pas encore. C'est annoncé pour Mountain Lion, pour pouvoir le faire en écran externe ou en mirroring. Ça va être vraiment, vraiment intéressant aussi de pouvoir faire ça, mais pour l'instant, ça ne peut pas le faire. En attendant, il y a un petit plugin qui peut le faire et je l'ai testé. Ça fonctionne vraiment très bien. Ça s'appelle Air Parrot. Donc, oui, c'est un perroquet. Il répète qu'est-ce qu'on a fait via les airs ou via notre système Apple. Donc, je vous le conseille si vous voulez faire ça, si vous avez un Apple TV. C'est vraiment génial. Ça fonctionne très, très, très bien. Puis, ça coûte pas vraiment tellement cher. Surtout que, justement, dans la prochaine mouture de Lion, il va l'avoir. Donc, la fonctionnalité va être là. Donc, ça vaut la peine, c'est pas très cher, c'est moins de 10$. Je vais vous parler aussi de cloud computing. Moi, en ce moment, je suis pas mal tout en cloud. De plus en plus, même, je dirais, mes comptes email, mes calendriers, mes contacts, tout est synchronisé avec iCloud. Et tout est dans le cloud. Mes emails sont tous dans le cloud. Plusieurs documents le sont aussi. Et ce qui arrive, c'est que je me sers de moins en moins de Google Docs. Moi qui étais quand même un fervent défenseur, je l'utilise encore à l'occasion, mais vraiment, j'en ressens de moins en moins l'utilité. Je m'en sers aussi beaucoup de Evernote à l'occasion. Donc, ça aussi, c'est complètement en cloud computing. Il y a iCloud sur tous mes ordinateurs, sur tous mes appareils, iPad, iPhone, les deux MacBook. Donc, oui, tout ça a besoin d'être synchronisé et ça me simplifie la vie. C'est incroyable. Je me sers aussi, je vous l'ai dit, des flux de photos, les documents aussi, Pages et Keynote, qui peuvent être dans le cloud via le iPad. Donc, quand on travaille sur iPad, ces documents-là peuvent être synchronisés sur notre compte iCloud. On peut les télécharger sur l'ordinateur, mais pour l'instant, il n'y a pas une vraie synchronisation. C'est pas sur notre iPad, oui, c'est une vraie synchronisation, mais pas encore sur notre ordinateur. Je pense que ça va venir très bientôt. C'est un peu ridicule que la fonction soit là sur un appareil mobile et pas encore sur la vraie version de bureau, mais je sens que ça s'en vient et que Apple est en train de nous concocter tout ça. C'est drôle, hein? Je suis en train de commencer à rouler Windows en émulation sur mon ordinateur. Certains diraient que c'est une aberration, c'est une plaie. Oui, moi aussi, je réagis comme ça un peu. Je suis pas un fan de Windows. Sauf que, en fait, ma copine en a besoin pour faire du travail à l'occasion. Donc, j'ai commencé. J'ai pas tout acheté, en fait, ce que j'ai fait. J'ai installé la version démo de Parallels pour pouvoir le faire, pour voir comment ça fonctionnait. Et par la suite, je voulais pas avoir à payer pour un système d'exploitation. Fait que j'ai downloadé la démo de Windows 8. Et ensuite, j'ai downloadé la version d'essai de Microsoft Office pour PC. Donc, je suis vraiment en mode démo en ce moment. Ça fonctionne assez bien en général. La seule chose, c'est qu'au niveau du clavier intégré de l'ordinateur, faire un arrobase, un A commercial, je n'ai pas encore trouvé comment avec les commandes clavier, autre qu'en faisant copier-coller. Donc, c'est un petit problème pour l'instant. Sinon, ça fonctionne bien. Il y a un système, justement, pour avoir accès à des documents à distance. Pour l'instant, pour ma copine, pour l'instant, je pense que ça ne fonctionne pas super bien à cause de Windows 8, parce que, c'est une version démo. Donc, je vais voir si ça ne fonctionne pas. Je vais acheter Windows 7 pour l'instant. Mais on verra, je vais vous tenir au courant si je m'en sers vraiment. J'ai essayé des petites affaires ici et là. Juste pour voir, mais en tout cas, je vais vous dire avec le temps si je m'en sers vraiment. Je vous mets une autre chanson et je vous reparle tout de suite après.
J'avais les genoux mous, pis tout, c'était la plus belle affaire du monde. On aurait pu être l'inspiration d'une toune de Céline Dion. Mais quand il a vu l'autre fille qui était plus chicks que moi, il a ramené chez eux dret devant mes yeux. Hostie de gang de podcast. Fait que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est la marde. Fait que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est la marde. Comme une fille veut te casser les jambes. Je ferai attention à toi, mon petit gars, parce que mes chums de filles veulent te casser les jambes. J'ai l'air d'une grosse robineuse assise toute seule au bord en bitchant toute la soirée à ceux qui ont le malheur de m'écouter. Je dis peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est la
ça fesse, hein? C'est du Lisa Leblanc. Encore une fois, oui, sa chanson phare qui connaît beaucoup de succès en ce moment. Oui, et oui, ça fesse. C'est cru. C'est sympathique, en fait. Cette chanson-là, elle l'a fait pour le plaisir. Elle l'a fait simplement pour s'amuser. Puis, au début, elle voulait pas la chanter, la mettre sur l'album, tout ça. Puis, en voyant le succès que ça a, puis comment les gens ont réagi, bien évidemment, je pense que ça va être indissociable de sa personne, de sa personnalité dans l'avenir, c'est sûr. Je ne saurais trop vous recommander d'aller acheter son album, d'encourager cette fille-là qui est toute jeune, toute pleine de talent. Donc voilà, je voulais vous demander si vous êtes pour ou contre obtenir illégalement un service sur le web. Illégalement. Est-ce que c'est pas vraiment, vraiment, totalement illégalement, c'est que, en fait, contourner un peu les barrières pour obtenir un service. Comme par exemple, moi j'ai un compte Apple américain, donc à l'occasion, s'il y a une application qui est bloquée ici, ou s'il y a un artiste qui pour des droits X, Y, Z est bloqué ici, Mais ça me permet d'avoir l'application ou de télécharger de la musique sans problème. Et comment je fais ça? C'est très, très simple la procédure. On en a déjà parlé, puis vous pouvez faire des recherches sur Internet. On avait parlé à l'époque que je faisais Mac Québec avec les deux Laurent. C'est simple, on s'ouvre un compte sur le store américain sans mode de paiement. Donc, on ne choisit pas de mode de paiement, on ne choisit pas de mettre de carte de crédit. On insère une adresse américaine, une adresse courriel autre que celle de notre vrai compte Apple. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? Oui, on peut télécharger les applications gratuites, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est payant? C'est très simple. On va sur eBay puis on achète une carte du iTunes Store américain. Et on rentre le code et on peut faire ce qu'on veut après ça avec, avec ça. Sinon, l'autre truc, ben oui, c'est si jamais on visite les États-Unis, ben on s'achète une carte soi-même iTunes aux États-Unis, puis on la rapporte avec soi. Donc, c'est ça le truc. Est-ce que c'est complètement illégal? Parce que là, on paye quand même pour avoir, je ne sais pas, de la musique ou des applications qui sont restreintes par le territoire. C'est quand même discutable, parce qu'on peut dire, ben oui, on est allé aux États-Unis, puis on a payé, puis X, Y, Z. Mais en réalité, les systèmes ne sont pas faits pour ça, même si on peut contourner la chose. Je vous parle de ça, entre autres, parce que je suis un utilisateur de Dropbox, comme probablement la plupart d'entre vous qui m'écoutez, ou sinon, mais mon Dieu, allez vous abonner, ou plutôt, laissez-moi vous inviter. Quand on invite quelqu'un d'autre, ça nous permet de gagner de l'espace de stockage supplémentaire. Donc, envoyez-moi un courriel, puis je vais vous inviter à Dropbox. Ça va être génial pour tout le monde. Il y avait une promo, je crois que c'est en France seulement. Donc, il y avait une promo pour ceux qui avaient un appareil HTC qui tourne sous Android pour obtenir 22 gigaoctets pour 2 ans. C'est quand même beaucoup parce que le compte de base, il est quoi? 2,5 gigaoctets chez Dropbox. Donc, avoir 22 gigas, c'est quand même massif, c'est quand même énorme. Et comment on s'y est pris? Il fallait activer Dropbox sur son appareil HTC. À partir de son compte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement changé mon mot de passe. J'ai donné mes informations à mon pote français qui a activé le HTC, qui a activé Dropbox sur son HTC à partir de mon compte. J'ai eu les 22 gigas. Un coup que ça a été fait, il a désactivé mon compte sur son appareil. J'ai ramené mon mot de passe. Et puis, mais c'était fait, j'ai un paquet de gigaoctets, là, j'approche 30. Là. Ceci dit, je m'en sers beaucoup. Et comment je m'en sers? Je m'en sers pour des mandats où est-ce qu'on a à collaborer. Vous savez, je fais des mandats des fois en télétravail, c'est-à-dire avec d'autres intervenants, avec d'autres agences, tout ça. Donc, en partenariat, des fois aussi, c'est avec moi, j'engage des gens qui font de la production. Puis là, ben, on a besoin de synchroniser nos fichiers, tout ça. Et souvent, c'est une problématique. Hein? C'était une gymnastique incroyable de faire ça. Puis là, ben, avec ça, c'est génial parce que ben, un coup que le document est transféré sur le serveur, si on a synchronisé nos appareils, ben, après ça, il se déploie sur chacun de nos appareils. Donc oui, il y a une copie qui est sur le serveur, mais en même temps, lorsque la copie est là, les dossiers qui sont synchronisés, bien, ils vont se synchroniser sur chacun de nos appareils. Moi, c'était surtout problématique parce que là, bon, j'ai plus qu'un ordinateur. Et en plus de ça, c'est que ben, je travaille comme enseignant. Parfois, je travaille de la maison. Parfois, je travaille du bureau. J'ai un ordinateur en plus au bureau. C'était incroyable là, quand je travaillais sur des documents pour les cours, des exemples, des exercices, etc., etc. D'être sûr d'être à jour partout, c'était pas évident. Et là, tout simplement, mon dossier, il est dans le cloud. Et c'est génial, ça me simplifie la vie. C'est incroyable. Aussi, un petit truc, ben j'ai installé aussi Dropbox pour iPad pour avoir accès à mes documents si j'en ai besoin. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisez la suite de documents, par exemple, la suite d'applications pour l'iPad, Keynote, Pages, etc., les outils de Apple. Ben, si vous avez la version de bureau puis la version iPad, vous savez que si vous faites une présentation sur votre ordinateur dans Keynote, on ne peut pas la transférer sur notre iPad. C'est pas compatible. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Normalement, les documents, on les transfère via iTunes puis on les met dans le dossier de l'application. Et là, ça ne fonctionne pas. Et j'ai trouvé une façon de le faire. C'est tout simple, Dropbox est notre ami. On met nos documents de présentation dans Dropbox et on demande de l'ouvrir avec Keynote et il fait la conversion. Et ça, c'est incroyable parce qu'on est obligé de passer par une fonction ou une application tierce pour réussir à le faire fonctionner. Et la seule autre façon que j'avais vu de pouvoir le faire, c'était d'exporter en PowerPoint pour après ça l'ouvrir à partir de son iPad, ce qui est complètement, complètement ridicule. Donc, oui, c'est une bonne façon, ça solutionne le problème. Et comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que Apple vont changer ça bientôt. Ceci dit, personnellement, je n'ai pas nécessairement de problème moral à faire quelque chose qui est possible de faire technologiquement sans faire un acte carrément illégal. Je veux dire, c'est si on active à partir d'un appareil HTC, on obtient une grosse boîte Dropbox. Est-ce qu'on est obligé d'acheter un appareil HTC ou est-ce qu'on est obligé, je veux dire, on peut activer plusieurs comptes à partir d'un même appareil? Est-ce que c'est restreint dans la promotion à ce niveau-là? Je ne sais pas si la compagnie est allée penser jusque-là. J'aimerais avoir votre son de cloche là-dessus. Vous pouvez justement... On approche de la fin de l'émission. M'envoyez votre feedback à québecbalado@commercial.gmail.com ou sur québecbalado.com, tout simplement. Vous allez laisser un commentaire là. Avant de terminer, ce que je vais faire, je vais vous parler de la musique sur iPad. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez arrêter l'émission. Sinon, ben, je vais vous parler de la musique sur iPad parce que je me suis amusé un peu avec GarageBand sur l'iPad. Pas que je suis un virtuose, un musicien incroyable, mais je m'amuse à l'occasion sur ces appareils-là. Pardon. Je m'amuse aussi à faire un peu de musique parfois, juste pour le plaisir. Et ben comme ça, oui, je peux partager ça avec vous. Donc, vous savez peut-être, sur GarageBand pour l'iPad, on peut faire jusqu'à 8 instruments. Donc, il y a des instruments virtuels. Certains instruments font même les accords pour nous. Moi, en général, je préfère faire mes notes moi-même. Mais parfois, bon, quand je ne suis pas assez bon, par exemple, pour faire du clavier, je suis pas, je m'y connais pas assez, je ne connais pas assez d'accords pour le faire. Sinon, le reste, la plupart du temps, je fais mes notes moi-même, je fais mes accords moi-même. J'aime ça, je m'amuse. Je ne suis pas un virtuose, honnêtement. J'ai appris un peu la musique au secondaire, mais pas énormément. Je sais lire des partitions de guitare basse. Je connais un peu le principe, mais je connais pas la théorie de la musique en détail, la théorie des accords, tout ça, je connais pas grand-chose là-dedans, honnêtement. Vraiment pas. Et je connais pas une tonne d'accords avec la guitare. Et pourtant, je sais me débrouiller, je sais m'amuser puis faire deux, trois affaires comme ça. Je sais que certains accords vont mieux ensemble. Et c'est pas nécessairement parce que je l'ai appris, c'est tout simplement parce que je l'ai vu dans certaines chansons. Par exemple, qu'un la puis un do, ben ça va bien ensemble, tu sais. Donc c'est ça, je me suis amusé à faire une petite chanson. J'avais une idée d'un rythme en tête pour une chanson. Puis j'ai commencé comme ça, tout simplement, avec un rythme de drum. Puis je vous le fais jouer. Oui, c'est comme ça. Ça dure pendant quelques mesures comme ça. Et là, ça recommence. Vous voyez, à la fin, il y a deux coups de snare drum. Donc, après ça, ça m'a inspiré. Je me suis dit, moi, j'aime beaucoup les orgues d'époque, là, quelque chose de vraiment vintage. Fait que j'ai mis l'émulateur d'orgue Hammond sur le iPad. Et là, ben, c'est ça, j'ai joué bon, certaines tonalités comme ça. Où est-ce que bon, l'appareil joue l'accord à ma place? Vous voyez, mon jeu n'est pas parfaitement synchro, mais j'aime ça un petit côté un peu rough, un peu imparfait. Il y a des outils pour synchroniser parfaitement, puis je trouvais ça le fun. Je ne l'ai pas totalement synchronisé. Il y a un petit côté un peu fait main. Et j'ai joué, il y a des... je ne me rappelle plus quel accord, Do, La, puis je ne me rappelle plus quel autre. Bref, c'est pas nécessairement important. Et là, après ça, je me suis dit, ça prendrait une petite guitare rock un peu pour donner un petit edge à ça. Là, je trouvais quand même, c'est pas mal. Ça sonne quand même bien, là, tu sais. Fait que là, ensuite de ça, je me disais, ça prend un peu de guitare acoustique pour réussir à donner un peu plus de corps à cette chanson-là. Je vais jouer juste la guitare acoustique. Je trouvais ça trop difficile de jouer de la guitare acoustique sur le iPad, faire les accords, tout ça. J'ai même laissé faire des accords automatiques par l'appareil. Je vais jouer juste comment ça sonne. Et la façon dont la guitare est grattée ne fonctionne pas nécessairement avec le rythme de ma chanson. Mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a des changements un peu étranges à certains endroits. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant avec la chanson. De toute façon, c'est pas ce qu'on entend le plus. Vous voyez, ça le fait quand même pas pire. Et là, ça manquait de bass, et comme je suis un joueur de bass moi-même, mais j'ai rajouté de la bass, et c'est vraiment là, de la bass extrêmement, extrêmement simple par note. Et évidemment, j'ai pris la bass qui s'appelle Liverpool, qui est une copie sur l'iPad de la bass Hofner de Paul McCartney. Donc, ça commence à sonner comme quelque chose. Mais parfois, je vais baisser un petit peu le son, là. Parfois, il faut donner aussi un peu, ajouter un peu de son pour que ça puisse un petit peu, je baisse un peu. Oui, pour que ça puisse sonner un petit peu mieux, puis avoir un peu plus de corps, en fait. Donc, j'ai pris un clavier électronique qui est un peu, une copie des claviers des pianos électriques là, des années 60. Et j'ai juste frotté les notes pour donner une texture audio. Je vous fais jouer ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. Fait que c'est juste ça. Puis ça va vraiment avec le rythme. Et ensuite de ça, dès le début, je vais rebaisser le son. Dès le début, j'avais une idée de mélodie avec mon rythme. L'idée de la mélodie m'est venue au tout début. Mais je suis pas pianiste. Mais j'avais envie de la faire au piano. Fait que j'ai joué un peu, ça m'a pris quand même quelques minutes à réussir à trouver les notes que j'avais en tête sur le clavier. Puis ça sonne quand même pas si pire. Je vous fais jouer ça. Et finalement, la seule affaire qui manquait à ma chanson, tout simplement, à la fin, c'est un peu d'éclat de cymbale. J'aurais pu rajouter la cymbale sur ma piste de drum, tout simplement, mais j'ai choisi de la faire à part. Pourquoi? Mais entre autres, c'est pour lui donner plus de corps, parce que on peut pas contrôler chaque élément de la batterie indépendamment. Et moi, je voulais quelque chose qui a un petit peu plus de crunch, pour ajouter par-dessus la batterie. Donc, j'ai ajouté une piste et qui fut ma 8e piste. Je vous fais jouer tout ça ensemble. Donc, vous voyez, c'est assez sympathique. C'est un peu plus comme un jingle qu'une vraie chanson. En fait, la façon que GarageBand fonctionne sur l'iPad, c'est un peu comme des boucles. Donc on crée des boucles et puis ça joue aussi en boucle. Sur 8 mesures, en fait. Donc, j'ai tout simplement fait ça pour m'amuser. Et puis, peut-être que je vais m'en servir dans le futur comme jingle, comme fond pour mes prochaines émissions. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec GarageBand. Je ne sais pas si vous vous en servez. Dites-moi votre utilisation de GarageBand pour l'iPad, si vous vous en servez. Puis sinon, votre appréciation de mon humble travail. Moi qui n'ai pas vraiment un musicien, mais qui aime beaucoup s'amuser avec ça. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion et j'espère que ça sera très bientôt. Tout à l'heure, j'ai eu un petit échange sur Facebook avec mon ami Laurent Lassalle pour un prochain épisode. Et puis, je pense qu'on va faire ça ensemble, Laurent et moi, ça fait longtemps. Je m'ennuie de mon barbu préféré. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion. Au revoir.